Nzamba.
Nzambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Nous sommes le dimanche 29 septembre 2024. Bienvenue à toutes et à tous à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. À la présentation, Audace Nibona.
Inzamba.
Encore une fois, bienvenue. Le rapporteur spécial de l'ONU sur le Burundi a présenté son troisième rapport lundi de cette semaine devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Selon Fortuné Gaëtan Zongo, la situation des droits de l'homme y reste particulièrement préoccupante. Aux graves violations des droits humains s'ajoute une crise économique sans précédent qui expose la vie des populations. Suivez Fortuné Gaëtan Zongo.
La situation des droits de l'homme au Burundi reste préoccupante. Le pays mérite toujours une attention constante du Conseil des droits de l'homme. Les raisons qui ont motivé la mise en place du mandat n'ont pas fondamentalement changé. Les institutions de mise en œuvre des différents droits restent faibles. L'année qui s'est écoulée m'a donné l'occasion d'observer une série de faits qui, mis ensemble, pourraient constituer des signes précurseurs de violations graves du droit de l'homme et des droits internationaux des droits de l'homme, particulièrement lors des élections législatives et municipales prévues en 2025, conformément aux facteurs de risque communs identifiés dans le cadre de l'analyse des atrocités criminelles. Le pays qui n'a pas encore résorbé les conséquences de la crise de 2015 fait face à une crise économique sans précédent. Cette crise impacte la jouissance des droits et est exacerbée par le manque de devises, de pénurie de carburant, d'eau, divers produits de première nécessité, dont le sucre, sans compter les coupures récurrentes d'électricité. Pays confronté à la saturation foncière, le Burundi fait également face à des menaces pesant sur son environnement naturel. Les effets du changement climatique sont perceptibles et menacent la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance se traduisant par des déplacements forcés ou de migration qui augmentent la pression foncière dans les zones de retour des réfugiés.
Dans son rapport, Gaëtan Zongo indique que le contexte actuel ne permet pas la tenue d'élections crédibles. Il s'appuie sur les difficultés quotidiennes que connaissent les citoyens, sans oublier l'intolérance politique qui aggrave la situation. On l'écoute encore.
Peut-on réellement parler d'exercice du droit de vote dans un contexte où les populations luttent quotidiennement pour leur survie et éprouvent des difficultés à se déplacer d'un point d'une ville à un autre d'une ville ou avec des coûts de transport hors de leur portée? L'espace civique reste toujours verrouillé avec des représailles vis-à-vis des professionnels des médias, des organisations de la société civile. L'absence d'inclusion ne favorise pas la participation de toutes les formations politiques, y compris celles de l'opposition, pour les élections législatives et municipales transparentes et crédibles en 2025. La succession d'événements autour du principal parti d'opposition, le CNL, Conseil national pour la liberté, depuis février 2023, dénote de la volonté du gouvernement d'affaiblir et de diviser l'opposition. Plusieurs membres du CNR ou leurs proches sont emprisonnés. Les permanences de plusieurs partis politiques de l'opposition sont régulièrement vandalisées. L'État continue systématiquement à exercer un contrôle sur le service national de renseignement et sur la milice des Imbonerakure, qui sont liés de torturer, intimider la population. Ils s'adonnent régulièrement à des entraînements paramilitaires et sont considérés comme des héros au plus haut niveau de l'État et bénéficient du soutien des autorités. Je reste particulièrement préoccupé par le manque d'indépendance de l'appareil judiciaire. Ainsi, les cas de plainte déposés à la suite de violations graves ont rarement débouché sur l'ouverture d'enquêtes impartiales et encore plus rarement sur la poursuite et la condamnation des auteurs. Les arrestations arbitraires sont poursuivies la plupart du temps sous des motifs politiques ou de rébellion.
C'est la grogne au sein des familles qui ont des femmes détenues avec leurs enfants dans les cachots du parquet général de Makamba. Ces femmes sont dans des conditions carcérales difficiles. Leurs familles plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie en procédant à la libération des auteurs des délits mineurs. Les détails avec Eddie-Claude Nininahazou.
Selon des sources recueillies au sein du parquet général de Makamba, les conditions carcérales des femmes détenues au cachot de ce parquet sont très déplorables. 20 femmes et 4 enfants sont détenus au cachot de ce parquet depuis plusieurs semaines. Selon nos sources sur place, 4 de ces femmes sont détenues pour infanticide de leurs enfants, d'autres pour infraction mineure. Ces femmes sont détenues dans 2 cellules du cachot du commissariat communal de police pour manque de cellules réservées aux femmes au cachot du parquet provincial. 20 femmes dont 4 allaitantes partagent 2 cellules à raison de 10 femmes et 2 nourrissons par cellule. Leurs familles disent que la nuit, elles ne peuvent pas dormir, toutes sont obligées de se relayer pour dormir. Des sources proches du parquet expliquent cela par le retard des instructions préjuridictionnelles, des inspections tardives, mais aussi par les auteurs des délits mineurs qui ne sont pas libérés pour question de pot de vin. Les familles de ces femmes détenues demandent que les présumés auteurs des délits mineurs soient libérés pour comparaître étant libres. Et signalons que 2 personnes sont déjà mortes dans ce cachot au cours de cette année 2024 suite à ces conditions de vie déplorables.
Merci à toi, Eddie-Claude Nininahazou. Quittons les droits de l'homme pour parler éducation où plus de 20 000 élèves et écoliers de la province de Muyinga ont abandonné l'école au cours de l'année scolaire 2023-2024. Les principales causes sont la pauvreté dans les ménages, les grossesses non désirées et les mariages précoces. Jean-Georges Dekibogora nous en dit plus.
Des sources dans la province de Muyinga disent que ces abandons scolaires se remarquent au niveau de l'école fondamentale et post-fondamentale et qu'ils concernent les garçons et les filles. Les garçons qui ont abandonné l'école s'élèvent à plus de 11 000 contre plus de 9 500 filles. La commune de Gachoua a été la plus touchée par ce phénomène et compte à elle seule plus de 15% des chiffres d'abandon. Les mêmes sources disent que les raisons qui poussent les enfants à abandonner l'école sont entre autres les maladies, la pauvreté dans le ménage, les grossesses non désirées et les mariages précoces. Le directeur provincial de l'enseignement à Muyinga, Pascal Misago, reconnaît la gravité du phénomène. Il invite les parents à sensibiliser leurs enfants pour l'importance de l'école.
Vous voyez que les chiffres sont plus élevés dans la commune Gachoro, qui a plus de 15% des effectifs. Et cela dans le fondamental et dans le post-fondamental. Les responsables scolaires dans la commune Gachoro, vous le constatez vous-même. Dans toute la province de Muyinga, plus de 20 000 abandons scolaires. C'est vraiment beaucoup. Il faut qu'on fasse tout pour freiner le mouvement qui se remarque dans les écoles fondamentales et post-fondamentales.
Beaucoup de parents disent ne pas comprendre pourquoi ce phénomène de déperdition scolaire dans la province de Muyinga n'en finit pas.
C'est un phénomène qui se répète chaque année, mais il n'y a jamais eu de solution à ce problème. C'est très grave. Même le projet de cantine scolaire qui avait été initié pour garder les enfants à l'école n'a pas donné des résultats escomptés. Les élèves continuent d'abandonner l'école en grand nombre.
Les responsables scolaires et les parents de la province de Muyinga, tous s'accordent pour dire qu'il faut que tous les intervenants dans le secteur puissent s'asseoir ensemble pour trouver une solution durable à ce phénomène d'abandon scolaire.
Inzamba.
Nous poursuivons cette rétrospective de l'actualité de la semaine. La CAT Burundi dénonce les souffrances qu'endure la population carcérale de la prison centrale de Morambia pendant cette période pluvieuse. Dans un communiqué sorti par ACAT Burundi, cette prison était conçue pour accueillir au maximum 100 détenus, mais aujourd'hui, ils sont à plus de 1100. Jean-Claude Niburumunsi Le responsable du département juridique au sein de la CAC Burundi estime que cette situation carcérale est alarmante. Suivez.
Cette prison conçue pour accueillir un maximum de 100 détenus est aujourd'hui confrontée à une surpopulation carcérale alarmante. Le mois passé, la prison a atteint un effectif de 1100 détenus et aujourd'hui on entend qu'au lieu de diminuer, l'effectif continue toujours à grimper. La surpopulation endémique qui règne dans cette prison entraîne des conditions de vie extrêmement précaires pour les détenus. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas un espace suffisant pour contenir cet effectif très élevé des détenus par rapport à la capacité d'accueil. En plus de ce problème d'hébergement, la prison centrale souffre également d'une grave pénurie d'eau potable et des coupures d'électricité qui sont répétitives. Il y a aussi l'absence des infrastructures sanitaires adéquates. Les toilettes sont très peu nombreuses si on tient compte de la population carcérale actuelle. Il y a aussi le non-respect de la dignité humaine. Les conditions de détention ne respectent pas les principes fondamentaux relatifs aux droits humains. Il y a à noter que chaque détenu a le droit de satisfaire à ses besoins primaires dans le respect de sa dignité. Or, l'accès à des installations sanitaires et à de l'eau potable est un minimum que tout être humain, même une personne en détention, devrait pouvoir espérer. Donc, la situation à Mulambya met à lumière la négligence des autorités face à ses obligations. Il est essentiel de rappeler que l'incarcération ne doit pas être synonyme de privation de dignité.
Jean-Claude Niboulmoussi demande au ministère de la Justice de prendre des mesures immédiates pour désengorger les prisons, plus particulièrement la prison centrale de Mulambya. Encore une fois, Jean-Claude Niboulmoussi.
Malgré des efforts de désengorgement que nous on peut taxer de timide, il n'y a pas vraiment une solution durable par rapport à cette population carcérale que nous observons dans différentes maisons de détention et à la prison de Mulambya en particulier. Les libérations qui ont eu lieu sont souvent qualifiées de timides car le nombre de détenus qui sortent reste largement inférieur à celui des nouveaux arrivants. Donc ce phénomène est amplifié par un système judiciaire où la détention préventive est fréquemment utilisée, parfois même abusivement, pour de longues périodes. Nous appelons donc au ministère de la Justice qui est en charge l'organisation des établissements pénitentiaires qu'il est impératif de prendre des mesures immédiates pour désengorger les prisons et en particulier celles de Mulambya. Il est nécessaire d'adopter des politiques pénales alternatives telles que les peines non privatives de liberté. Aux autorités judiciaires, il est primordial que celles-ci appliquent rigoureusement les textes légaux en matière de détention préventive et de libération conditionnée.
Un petit retour en province Muyinga. Il se remarque ces derniers jours un comportement inhabituel de certaines personnes qui vendent frauduleusement en Tanzanie le carburant de type essence acheté aux stations-service locales. Les conducteurs de véhicules de type Probox font le plein et par après vident les réservoirs pour vendre ce carburant à une somme comprise entre 5 000 et 5 500 francs burundais le litre. Le gouverneur de la province de Muyinga, Jean-Claude Bartouanayo, s'insurge contre ce comportement. Il l'a déclaré mercredi de cette semaine en province Gitaraï au cours d'une réunion de sécurité. Le point avec Jean-Baptiste Bireha.
Depuis que le carburant de type essence est disponible, les stations-service en province de Muyinga, des conducteurs des véhicules et motos ont adopté un comportement indigne. Selon nos sources dans cette province, ils achètent de l'essence aux stations locales pour vendre clandestinement en Tanzanie le même carburant. Les mêmes sources indiquent que ces fraudeurs vendraient ce carburant à 5 000 francs burundais le litre ou largement plus. Dans une réunion de sécurité animée ce mercredi en commune Gitaraï, le gouverneur de la province Jean-Claude Barutwanayo s'est dit affligé par ce comportement hors du commun. Il a ordonné à la police, à l'administration et à la population à sévir contre ces fraudeurs.
S'il y a un mauvais comportement qui se remarque dans la fraude de carburant, vous voyez que nous disposons maintenant une quantité suffisante de carburant, mais il y a des ingrats qui se permettent d'acheter le carburant et le vendre par la suite en Tanzanie. Il y a des gens irresponsables. Excusez-moi, si vous regardez la pénurie de carburant qui venait de frapper notre pays et qu'il y a des gens qui font le plein de leur véhicule pour faire le vidange par la suite, ces personnes sont des irresponsables. Ayons le courage d'apporter entre nous des conseils constructifs.
L'autorité provinciale met aussi en garde ses conducteurs, précisant que celui qui sera attrapé sera sévèrement puni conformément à la loi.
Merci à toi, Jean-Baptiste Direha. Les différentes autorités sont appelées à œuvrer pour l'intérêt général du pays, pour que la nation aboutisse à son développement. Cet appel est lancé ce jeudi en province Makamba, lors d'une séance de moralisation des autorités de la nouvelle province par le chef de l'État. Évariste Ndayishimiye se lamente en disant que les autorités du pays mettent en avant leurs propres intérêts. Écoutez.
Il faut changer de comportement, surtout comprendre ce que c'est un responsable. Il faut d'abord penser à l'intérêt des citoyens, comme vous le faites chez vous, en pensant au premier plan à la nourriture de vos enfants. Pourquoi vous n'agissez pas des citoyens qui sont en difficulté et ces citoyens ne demandent que des facilités seulement? Dites-moi si nous allons aboutir à notre vision telle que nous sommes. Nous avons constaté que le premier péché est de ne pas comprendre les autres. Comment est-ce que vous voulez que les autres vous entendent? La vision du pays est là pour tout le monde. Quand tu es responsable du BCEAE, tu dois te fixer un objectif clair pour qu'au moins en 2060, tu puisses garantir un logement social pour tout citoyen qui paiera son propre allocation, car les Burundais en seront capables financièrement.
Continuez à se lamenter et accuser certains responsables de ne pas travailler au service de la population est un signe de faiblesse du président Ndayishimiye. C'est ce que pense Frédéric Bambunyumvira, président de la coalition politique Sefor Arusha. Pour lui, un chef d'État ne se lamente pas, il prend des décisions, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Frédéric Bambunyumvira.
Un président de la République ne se plaint jamais. Se plaindre est un signe de faiblesse. Un président ne se plaint pas. Un chef de ménage ne se plaint pas. Non, il prend des décisions. Il nomme le directeur général. Il nomme des ministres. Il a le droit de le faire. Mais s'il continue à se plaindre en disant « Eh bien, ces gens-là ne m'aident à rien, ces gens-là ne m'aident à rien », ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est incapable. Ça signifie que ces gens-là sont supérieurs à lui et que par conséquent, ce sont eux qui devraient le remplacer. Et qu'il aille là-bas, dans cette place où les gens se plaignent. Ce sont des subalternes qui se plaignent. Jamais l'autorité ne se plaint. Jamais. Donc, il faut qu'ils comprennent que ces plaintes n'ajoutent rien à la misère de ces citoyens. Mais non, ça c'est le rôle de quelqu'un de l'opposition. Il peut formuler peut-être des plaintes qu'il collecte de la population, des citoyens, et les adresser au président de la République. Trouver l'occasion de dire, Monsieur le Président, voilà ce qu'il y a. Il y a écrit une lettre, il fait une déclaration, tout ça. Donc ce sont des occasions, ce sont des modalités pratiques qu'il peut utiliser pour que, justement, les plaintes de la population arrivent aux décideurs. Maintenant, si le décideur se plaint, c'est du sable. Quand le chef se plaint, est-ce que c'est lui qui a le droit de nommer l'autorité et de dégommer l'autorité? Et alors maintenant, il faut qu'il utilise les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution.
Frédéric Bambunyumvira pense que le président Ndayishimiye prend cette attitude pour s'attirer la sympathie de la population pour des raisons électoralistes. Il appelle la population à la vigilance. Suivez encore Frédéric Bambunyumvira.
On peut se dire pourquoi il se plaint. Peut-être nous sommes à l'approche des élections. Comme il sait comment il a été au pouvoir, il faut caresser la bête dans le sens du poil, il faut caresser la population en leur disant, voilà, Mag était bon, c'est l'autre qui est mauvais. Mais non, la population n'a pas besoin de savoir qui est bon, qui est mauvais. La population a besoin de savoir si un chef de l'État est capable de les aider à avoir des services de qualité. Si oui, il est là, doit être là. Sinon, il faut qu'il quitte. Donc, c'est pour vous dire que un chef d'État qui se plaint manifeste son incompétence ou cache mal ce qu'il désire. Ça veut dire une occasion de caresser la population dans le sens du poil pour qu'il puisse se présenter aux prochaines élections et gagner les élections. La population ne devrait pas écouter ses plaintes. Il faut qu'ils disent que le chef ne se plaint pas. Le chef prend les décisions. Le chef remplace des gens qui sont défaillants dans leurs fonctions. Voilà ce que devrait dire le peuple burundais. Deuxième élément, le peuple burundais doit savoir son rôle. J'ai l'impression qu'il essaie de suivre de façon impassible, il essaie de comprendre. Ce n'est pas ça le rôle d'un peuple. Dieu nous a donné l'intelligence et le pouvoir pour que nous puissions comprendre et réclamer nos droits. Le peuple doit savoir qu'il a des droits inaliénables, notamment le droit à la vie. Le peuple, s'il voyait quelqu'un qui est tué, qu'il sache que la prochaine fois, c'est l'autre. Ils doivent se mettre ensemble pour dire, non, monsieur le président, vous n'êtes pas là pour là, vous êtes là pour nous sécuriser dans nos biens et dans nos vies. Si vous n'êtes pas capable, déclarez-le, parce que ça ne peut pas marcher comme cela. Le troisième élément, évidemment, le peuple ne sait pas parce qu'il n'a pas été formé, instruit, il n'a pas les informations nécessaires pour qu'il sache que c'est lui le chef de ménage et que c'est lui qui désigne le chef. Et que le chef, une fois désigné, doit comprendre qu'il est là au nom du peuple, jamais en son propre nom.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine. Au revoir et bonne fin de week-end chez vous avec la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Inzamba.
Inzamba la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.